Salut, c'est G sur Radio Plus. Vous êtes actuellement à l'écoute d'Humour Plus. Et franchement, ça déchire, ça déchire.
Ça déchire, ça déchire.
Et nous voilà de retour pour la deuxième heure d'Humour Plus, deuxième et dernière heure de ce numéro en ce samedi 2 novembre avec un invité qui s'appelle Maé, jeune talent de l'humour que l'on suit depuis plusieurs mois maintenant. Alors je dis jeune talent de l'humour parce que c'est vrai que statistiquement ça fait pas très longtemps qu'il a démarré sa carrière, mais pourtant il a déjà bien avancé. Son spectacle s'appelle Maé s'installe et je peux vous dire qu'il est en train de bien s'installer comme ça dans le paysage humoristique lillois et même le paysage humoristique national, puisqu'on le disait, il y a beaucoup de dates là qui arrivent, des dates à Paris, des dates à Marseille, des dates du côté de Lyon, certainement aussi je pense que c'est dans les cartons un festival d'Avignon à l'été 2020 qui se profile. Il me fait oui de la tête, donc ça veut dire oui, mais il y a quelque chose qui me fait sourire là, Maé. C'est que je suis en train d'expliquer tout ça, et je le dis avec beaucoup de sincérité, hein, qu'on t'accompagne, qu'on te suit et qu'on est content de te voir grandir. Et tu réagis, t'as cette réaction, c'est très sympa à voir, c'est un peu comme si tu estimais, alors je vais pas dire que tu méritais pas ces compliments, car si tu les mérites, mais voilà, il y a un certain recul, un certain détachement, et ça j'apprécie beaucoup.
Merci beaucoup.
mais du coup, ce qui en découle de ça, c'est que, est-ce que des fois t'as l'impression de vivre un rêve éveillé?
Je prends pas forcément conscience de ce que je vis. Le fait que j'aille au spotlight, je vois une salle complète, les gens qui viennent, qui se déplacent pour venir voir le spectacle, etc. J'ai pas forcément conscience de ce que je suis en train de vivre. Donc, ouais, on peut dire que c'est un rêve éveillé, tout simplement.
Un rêve éveillé qui accompagne Maé depuis plusieurs années maintenant. Le spectacle, pourtant, lui, il a qu'un an, hein, c'est ça.
Le spectacle n'a qu'un an, ouais.
Qui l'est construit. Ça fait 3 ans que tu tournes sur scène. Alors, c'est quoi le cheminement pour écrire un spectacle?
Dans un premier temps, on a quelques petites idées à droite à gauche. On griffonne sur un cahier, on travaille. Tu vas en scène ouverte. Tu testes, tu prends des bides, tu reprends, tu testes ta vanne, elle fonctionne pas, t'essayes de comprendre pourquoi elle fonctionne pas, de la tourner d'une autre manière, avec une autre intention, une autre tournure de phrase, et tu travailles, jusqu'à ce que t'arrives à un moment où la vanne devient percutante et où elle devient vraiment très performante, en fait. Et à partir du moment où t'atteins ce niveau, tu peux assembler toutes ces petites parties en mettant des transitions logiques, et ça te fait un spectacle.
Et ça fait un spectacle qui s'appelle Maé s'installe, un spectacle autobiographique, on peut le dire comme
ça.
Où tu parles de tout, hein. Tu parles de toi, tu parles des métiers que tu as exercés, et puis tu parles aussi de ce qui t'interpelle. Moi, il y a un sketch qui me fait à chaque fois mourir de rire, c'est celui avec le chien.
Avec le chien, oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, sans trop en dire, pour pas gâcher la surprise de ceux qui vont te voir?
À travers ce sketch, en fait, j'aime... mettre en évidence ce qu'on a tous déjà vu, en fait, le comportement de certaines personnes qui ont des chiens et la façon de se comporter avec leurs animaux, qui moi me semble anormal, mais qui pour eux est une chose tout à fait logique. Donc j'aime mettre ce genre de d'évidence, en mettre le doigt sur ce genre de choses.
Et c'est là que les propriétaires de chats sont contents, parce que les propriétaires de chats ne sont jamais aperçus dans la rue en voyant, en appelant leur animal par un petit surnom, comme si c'était leur enfant. Voilà. Nous, on est tranquille, les propriétaires de chats.
Par contre, je les ai pas épargnés non plus, hein, parce que je parle d'eux juste derrière. Après le sketch des chiens, je parle des gens qui ont des chats. Donc,
mince, je vais faire discret alors la prochaine fois que je viendrai voir effectivement ton spectacle. Beaucoup de dates qui se profilent à l'horizon. Est-ce que malgré tout ça, tu prends le temps de noter des choses à droite à gauche qui pourraient te servir plus tard dans le cadre d'un deuxième spectacle?
Bien sûr. En fait, concrètement, pour vous dire les choses clairement, mon but c'est de roder ce spectacle et d'avoir la meilleure version possible du spectacle Maé s'installe, mais en fait je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc j'ai écrit beaucoup, mais ce qu'il y a c'est que je peux pas faire un spectacle de 4 heures quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné je dois écrire des choses, les tester et les mettre de côté pour un éventuel deuxième spectacle, bien sûr.
Est-ce que c'est une contrainte, le temps qui t'a frustré? Parce que c'est vrai que à Avignon notamment, il est beaucoup insisté sur le fait qu'un spectacle c'est une heure voire 50 minutes.
Oui.
Et pour beaucoup qui avaient déjà un spectacle établi d'une heure 10, une heure et quart, voire peut-être même pour certains une heure et demie, ils ont dû faire des coupes. Et ils nous ont tous dit à quel point c'était difficile de faire des coupes.
Exactement. Moi, j'étais sur un spectacle d'une heure 10, une heure 15, et j'ai dû faire 50 minutes. Donc il y a 25 minutes qui devaient sauter, mais je ne savais pas quoi choisir pour enlever le texte. Et il se trouve que j'ai dû retirer mes moments d'improvisation.
Ah, qui du coup étaient quand même calibrés dans le...
Qui étaient calibrés dans...
Dans le conducteur.
Dans le conducteur. Alors, ça m'a beaucoup frustré, parce qu'en fait, j'aime beaucoup ces moments. Et c'est ce qui donne, comment dire, c'est le petit plus. Du texte. Alors, ce qui est cool, c'est que pendant un mois, j'ai travaillé le texte. Vraiment, à proprement dit. C'est-à-dire que, on travaille les vannes, on travaille la tournure des phrases, on travaille les intonations, on travaille le texte de manière brute. Sans rien ajouter. Et ça, c'est, ça n'a pas de prix parce qu'en fait, en sortant du Festival d'Avignon, ben, on se retrouve avec une base de travail qui est vraiment bien solide. Ce qui veut dire que, avec le texte qu'on avait à la fin du festival, je pouvais me permettre de ne plus faire d'improvisation. Parce qu'en fait, on peut voir l'improvisation comme un manquement. Comme si, en fait, on voulait pallier.
Pour combler le vide.
Exactement. Alors que c'est pas le cas du tout dans mon cas. J'ai beaucoup de contenu, mais j'aime l'improvisation. J'aime beaucoup. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à le faire avec le public et je vois que le public aime également l'improvisation. Donc ça m'encourage à le faire. Mais c'est en aucun cas pour combler du vide, tout simplement.
Le travail, toujours, ça c'est quelque chose qui te tient à cœur. Il y a une certaine exigence qui te permet aussi d'en arriver là. On n'arrive pas à cerner en fait ce qu'est le métier d'humoriste parce que il y a la scène, il y a l'avant-scène avec la promo, ça c'est des choses vérifiables pour le grand public. Et puis il y a toute cette part de travail qu'on n'attend pas. Alors je te demande pas un emploi du temps super précis parce que tu vas pas être en mesure de m'en donner un. Chaque journée est différente, mais sur une semaine, ça représente combien de temps de travail de consacrer du temps à son spectacle? Est-ce que tu arrives à le quantifier ou pas?
Honnêtement, je peux pas le quantifier parce que
là, par exemple, aujourd'hui, on sait que tu vas passer 20 minutes. Là, t'es 2 heures avec nous en promo. Tu vas passer 2 heures avec ta metteur en scène. Tu vas avoir la scène ouverte qui va durer 15-20 minutes.
Ouais.
La première partie, pareil, 20-30 minutes. On peut là dire aujourd'hui, bah voilà, il va consacrer 6 heures de sa journée à travailler.
Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut calculer le truc parce que. C'est vrai que
je veux bien que t'as pas de fiche de paye à la fin avec ton détail d'heure, voilà. tes congés, hein.
Ouais,
mais c'est pas aussi pour que les gens se rendent compte de tout le boulot qu'il y a derrière.
Ah, c'est un boulot monstre, hein. Faut dire les choses clairement. Mais, c'est ce que je me dis à chaque fois. Pour moi, c'est une passion. Quand je suis sur scène, il y a aucun moment qui peut égaler, la satisfaction que j'ai quand je suis sur scène face à un public. Alors, le public, ça peut être 2 personnes, comme 30 personnes, comme 300 personnes. Je vais donner la même intensité et je vais défendre mon texte comme si j'étais à l'Olympia. C'est-à-dire que j'aime bien cette phrase, c'est qu'on donne tout dans les grandes comme dans les petites salles. Et devant les petits publics, c'est-à-dire, il n'y a pas de petit public. Un public, c'est un public. Donc, moi, je me tiens à cette façon de voir les choses. Et en gros, c'est du travail quotidien. Il faut vraiment être tout le temps plongé dans le travail. Et quand tu me demandes de quantifier, ben, je peux pas, en fait. Parce que des fois, même quand je suis en train de manger, je pense à une vanne. Des fois, je vais dormir, je me dis, attends.
T'étouffes pas quand même quand tu manges. Si tu fais marrer toi-même, c'est dangereux.
Non, mais tu vois, des fois, je suis en train de conduire. J'ai mon cerveau qui a toute patate et qui est en train de chercher des combinaisons. Ou je vais voir une situation dans la rue qui me parle et hop, je vais vouloir en parler et la développer. Donc, en gros, constamment, tout ce que je fais se rapporte à la scène. Même si c'est pas de la scène directement.
Comment t'écris justement il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu nous avais déjà expliqué que t'étais du genre à traîner un petit peu dans les bibliothèques, à lire aussi la presse. T'as encore le temps de le faire aujourd'hui?
Un peu moins, mais je fais en sorte de trouver le temps. Je m'organise pour que j'ai besoin, en fait, je sais pas pourquoi la bibliothèque. Étant à l'école, j'ai jamais fréquenté les bibliothèques et j'ai jamais autant fréquenté les bibliothèques que depuis que je fais de la scène. Et je suis en bibliothèque et je prends beaucoup de plaisir à lire des livres. Ça, c'est premièrement, c'est un truc que je faisais pas avant. La lecture, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où dans un livre, il y a pas mal d'idées que nous, humoristes, on peut reprendre. C'est-à-dire que un angle de vue, une idée, un concept, et la lecture, c'est très enrichissant. Et en fait, on m'a toujours dit, avant, on me disait, il faut lire pour écrire. Parce qu'en fait, on peut pas écrire à vide. Je peux pas avoir une idée et me dire, ah bah, je vais écrire sur ce thème-là. Non, je prends un thème, je vais me renseigner sur le thème, je vais lire des documentaires, je vais lire des livres sur le sujet que j'ai choisi. Et une fois que je me suis bien renseigné et que je maîtrise la globalité de mon sujet, là, je peux me lancer dans l'écriture du thème et du sketch. Et si il n'y a pas eu ce travail de fait en amont, ben le thème va être traité, va être bâclé en fait. On aura juste quelques vannes et voilà, tout simplement. Alors qu'on peut vraiment créer un vrai truc, un vrai sketch de 7-8 minutes autour d'un thème et de vraiment plier le thème. C'est-à-dire qu'on a exploré tout l'aspect du thème.
Qu'est-ce qui t'inspire justement en ce moment, niveau vannes?
En fait, moi j'ai un truc... Par rapport à ce que je fais sur scène, j'aime bien prendre les gens à contre-pied. C'est-à-dire que je vais aller sur des terrains là où on m'attend pas et là où je vais surprendre le public. Par exemple, j'ai un sketch sur l'équitation.
Donc, je te confirme, tu me surprends.
Voilà. Donc, et c'est ça que je veux en fait. Je veux pas être. J'ai aussi un sketch sur le Nord et où je dis que je suis un ch'ti, etc. Et où je fais un rapport avec mes origines, etc. Donc il y a un contre-pied, il y a un décalage dans ce que je dis et j'aime beaucoup ce genre de choses. Là en ce moment. C'est tout frais. Je suis en train de travailler un sketch sur les relations épistolaires. Les relations d'amour épistolaires. C'est-à-dire, tu connais,
oui, les lettres d'amour, un truc qui s'est un petit peu perdu d'ailleurs avec l'arrivée du SMS. Exactement. Et des snaps, mais qui a bien cartonné à une époque.
À une
en
époque.
Tout cas.
Ah, voilà. Donc, et moi là, je suis en train de travailler un truc où je fais le parallèle entre les relations actuelles et les relations de l'époque. Et vraiment, j'essaye de trouver un angle qui va me permettre de mettre cette relation en valeur, parce que il y avait des avantages et il y avait des inconvénients.
Bien sûr.
Et je vais essayer.
Le prix du timbre, déjà
le prix du timbre, le temps d'attente. Ouais. Et parce que parfois quand on se dispute avec une personne, on est énervé, donc c'est sur le coup, on est à chaud et on répond des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, parce qu'on aime la personne, parce qu'on n'a pas envie de la blesser. Alors que quand c'est par lettre, on a le temps de réfléchir. Tu vois, je suis énervé, mais le temps que j'écrive la lettre, déjà, j'ai le temps de me calmer. Et moi, en fait, j'aime bien l'autodérision. Et je me dis, en fait, les relations épistolaires avec moi, ça aurait été très court parce que je suis pas très bon en rédaction, déjà. Et ça va être résumé avec des abréviations, tu vois. Beaucoup d'abréviations, beaucoup de fautes d'orthographe également. Donc, ça dépend avec qui on parle. Donc, voilà, c'est ce genre de thème. Relations épistolaires, j'ai jamais entendu personne traiter ce sujet en fait.
Ouais, en tout cas, c'est un sujet à traiter, que tu es en train de traiter, et ce sera peut-être à retrouver effectivement dans un prochain passage en scène ouverte.
C'est
on
ça.
Va souffler un petit peu, nous, on va se retrouver dans quelques instants. Je vous propose une pause musicale en compagnie d'un tout nouveau duo que j'ai découvert. Alors pour rien vous cacher, l'album est arrivé jeudi à la radio. Je les ai découverts, j'ai mis le CD dans ma platine et j'ai vraiment envie de vous les faire découvrir. Ils s'appellent Franck et Damien et ça. Sachez que l'album sortira le 8 novembre, un album qui s'appelle You Can Find Your Way, tu peux trouver ta route, trouver ton chemin. Et on va écouter un titre qui s'appelle Rosie.
Your kindness, all these little things. kindness and all these little things. If you sound, I will cry for you. If you smile, I'll be glad with you, glad with you. Rather like a flower, my flower. Thank you for your kindness and all these little things. Thank you for your kindness, all these little things.
Et voilà un duo qui fait du bien aux oreilles. C'était Franck et Damien qui vous interprètent Rosie, extrait de l'album You Can Find Your Way qui sort le 8 novembre prochain. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ces deux artistes. Et puis l'artiste auquel on s'intéresse aujourd'hui, c'est Maë, notre invité dans cette émission Humour Plus. On est encore ensemble pour une grosse demi-heure où on va continuer de parler de ton univers, parler de ta carrière. Moi, il y a quelque chose qui me marque aussi dans cet album là, déjà parce que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Le titre de l'album, c'est You Can Find Your Way. Tu peux trouver ta voix. Toi, tu l'as trouvée, ta voix. Elle est sur scène. Tu nous disais tout à l'heure que tu te verrais pas faire autre chose. Et puis, ça t'offre aussi des opportunités. Tu voyages, tu rencontres des gens, tu sors de la région pour aller jouer ton spectacle. Maintenant, tu peux répondre officiellement à cette question. Est-ce que le public du Nord est le meilleur de France? Oui ou non?
Honnêtement, oui. Ah franchement, le public du Nord, c'est le plus chaleureux, c'est le plus réactif. Et alors attention, le public ailleurs est très bien également. Mais là, franchement, dans le Nord, c'est incroyable. J'ai vu le spectacle de Florence Foresti au Zénith de Lille, ou de Jamel Debbouze. Leur entrée sur scène, elle est précédée de 5 minutes d'applaudissements et de cris du public. Ils n'ont pas encore commencé le spectacle. Ils n'ont encore rien dit, ils ont dit bonsoir Lille, et il y a 5 minutes d'applaudissements. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Alors que toi, quand tu as joué à Marseille, tu dois ramer pendant 10 minutes pour avoir ton premier applaud. C'est ça l'idée?
Oui, il y a un peu de ça.
Mais alors moi, j'interview aussi d'autres artistes, particulièrement des chanteurs, dans le cadre de mes autres émissions. Il y a une chanteuse qui me disait que c'est un duo qui vient aussi souvent dans le Nord, et qui j'usais là cette remarque comme quoi ils venaient souvent dans le Nord et que ils étaient appréciés dans le Nord, et elle me disait mais on a eu aussi on a débuté comme tout le monde, on a fait nos premières dates dans le Nord où personne nous connaissait, et on a eu cette bienveillance de la part du public du Nord, et elle disait qu'elle pensait que le public voyait l'effort qui était fait de monter sur scène, parce que c'est quelque chose qui n'était pas facile.
Bien sûr.
Et ça donnait envie d'encourager. Est-ce que c'est un avis que tu partages?
Oui, bien sûr. Parce que moi, c'est d'ailleurs, j'ai ce comportement à l'égard de jeunes humoristes qui montent sur scène. J'encourage les personnes qui montent sur scène, parce qu'il faut avoir un certain cran quand même. Le fait de se mettre à nu devant un public, et le fait d'être comme ça sans armes, parce que voilà, là on est face aux gens. Si c'est pas drôle, la réaction elle est immédiate. Donc ouais, bien sûr, faut être courageux pour monter sur scène. Par contre, il faut bien prendre en compte que ça peut paraître facile de voir quelqu'un sur scène et voilà, de raconter ses histoires et de faire rire les gens, mais c'est loin d'être le cas. Ça, faut vraiment en avoir conscience. Et c'est vraiment un métier. Les gens pensent que, ah là, je monte sur scène, je dis des conneries, et ça fait rire les gens. Mais c'est, on est très, très loin de ça. C'est très, ça, c'est bien plus compliqué que ça.
Et ce que vous dit Maë, c'est vrai, hein, parce que j'ai eu le plaisir de monter moi-même plusieurs fois sur scène pour animer des galas, des concours, des spectacles. Et j'ai pas grand chose à dire, parce que le spectacle, c'est pas moi qui le fais au final. Et ben, je peux vous dire que quand vous êtes sur scène face à 400, 500 personnes, il faut du courage, il faut oser se lancer et puis surtout il faut être au point. Et heureusement Maë est au point, lui. Alors Maë, tu me disais aussi hors antenne que justement par rapport à ce public du Nord, t'es quand même content de l'avoir conquis parce que finalement ben nul n'est prophète en son pays.
Exactement.
Il y avait une phrase que tu disais, j'aimerais bien que tu nous la redises, que tu dis en ce moment d'ailleurs à la fin des spectacles.
C'est ça, et ça me tient à cœur vraiment. Et quand je le dis, c'est très sincère. Et je pense que avant de conquérir la France ou de conquérir Paris ou autre, c'est très important pour un humoriste d'être validé par les gens de chez soi, tout simplement. D'avoir la force des siens, comme on dit, ça n'a pas de prix. Tu vois, quand si je suis un humoriste lillois et que je vois que le public lillois j'ai la ferveur du public et que les gens me soutiennent et qui me poussent à vraiment aller plus loin et à atteindre mes objectifs et à dépasser mes limites, ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est très important pour un humoriste d'être soutenu par les gens de sa région, les gens de sa ville, les gens qui l'entourent, etc. C'est très important.
On parle de validation. Tes professeurs au cours de théâtre, ils ont validé ton choix de devenir humoriste puisque c'est eux qui t'ont un peu guidé vers cette voie-là. Aujourd'hui, quel regard ils portent sur ta carrière ?
Un regard, pour celui qui m'a orienté vers l'humour, Bastien, il est très content parce que en gros, ce qu'il me dit à chaque fois, il me dit je me suis pas trompé. J'avais un peu raison de t'orienter dans cette direction. Et par la suite, j'ai fait une école de théâtre à Paris.
Ouais.
Et ça s'appelait l'école Miroir pendant 2 ans.
À Épinay-sur-Seine, pour être précis.
Exactement, à Épinay-sur-Seine. Et j'avais des professeurs, dont un, Romain Faure, qui était un professeur à la Sorbonne, ainsi qu'à la Comédie-Française. Et le fait d'être drivé, coaché par ce genre de personnes, c'est incroyable. Parce que c'est des gens très exigeants dans le travail, c'est des gens qui sont très pointilleux, c'est des gens qui ont une expérience de scène incroyable. J'ai joué dans des pièces de théâtre également, dans des comédies, et eux, c'était plus leur domaine, leur registre. L'humour, le one-man show ou le stand-up, c'était pas forcément leur spécialité. Mais pour un humoriste ou pour un comédien, c'est important d'être polyvalent. Donc moi, ça me tient à cœur, par exemple, de jouer dans une comédie. J'ai joué pendant 2 ans dans une comédie qui s'appelle Plus si affinité. C'était une pièce de Pascal Légitimus et de Mathilde Lamé. J'aimais beaucoup cet exercice parce que je sortais de ma zone de confort. Et le fait de sortir de sa zone de confort, d'apprendre un texte, d'interpréter des personnages, etc., ça m'a enrichi pour mon spectacle, en fait. Donc.
Et ça te donne pas envie, à l'inverse, un peu comme une échappatoire ou une soupape de retourner de temps en temps vers ça ou t'ouvrir à d'autres projets, je sais pas, publicité, casting, ciné.
Oui, bien sûr, c'est une éventualité. Je joue en parallèle de mon spectacle dans une pièce qui s'appelle L'art du mensonge. Mm-hmm. C'est une pièce de Julien Cigala, c'est une pièce qui marche pas trop mal et ça me plaît beaucoup en fait et ça me permet de sortir, comme je te l'ai dit, de ma zone de confort, et c'est cool, vraiment, c'est un autre rapport avec le public, c'est un autre rapport avec la scène, c'est différent, mais par contre, c'est tout aussi enrichissant que le stand-up, en fait. C'est pas le même exercice, mais ça m'apporte beaucoup.
Maë, artiste complet, vous l'aurez compris, qui est avec nous pour parler de son spectacle Maë s'installe, qu'il joue ce soir à 21h30 au Spotlight de Lille et qu'il joue également tous les premiers samedis du mois. Les horaires varient, donc je vous invite à vous renseigner sur www.spotlight-lille.com. Et une petite question pour ceux qui te découvrent, Maë, pourquoi est-ce qu'il faut venir voir ton spectacle ce soir ?
Premièrement parce que vous allez passer un bon moment. Voilà, je vais vous divertir, vous allez ressortir de la salle apaisé, tranquille, la tête bien vide, tranquillement, vous allez passer un bon moment. Voilà, si ça peut vous encourager à venir voir le spectacle, vous n'allez pas être déçu, vraiment.
Tu as dit tout à l'heure dans la petite interview cash quelque chose qui moi m'a interpellé. Tu as dit que t'étais un, alors j'ai plus la formulation exacte, mais tu as dit que tu étais un humoriste populaire, enfin que tu faisais de l'humour populaire. Et t'avais dit c'est pas quelque chose de péjoratif. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que tu entends par là. C'est quoi pour toi l'humour populaire?
Alors parce que quand on emploie cette expression, on a tendance à avoir le côté négatif de la chose. Hein? Alors que moi pas du tout. Quand j'emploie cette expression humour populaire, c'est-à-dire que dans ma salle, on a tous les âges. Et je l'ai vu dernièrement à Lyon quand j'ai joué au festival. Et j'ai vu des gens dans la salle, j'ai vu des enfants et j'ai vu des personnes très âgées. Et tout le public a réussi à un moment à se retrouver dans ce que je disais. Alors si c'est pas par le texte, c'est par les mimiques. Si c'est pas par les mimiques, c'est par la gestuelle ou autre. Mais tout le monde y trouve son compte et on arrive à rassembler le maximum de personnes. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je définis mon humour de populaire.
Mais est-ce que du coup, ça te fait écrire pour ce public-là ?
En fait, quand on n'écrit pas pour un public. Dans un premier temps, j'écris pour moi parce que il faut que les choses me plaisent et que les choses me parlent. Et quand je parle de choses personnelles, je me dis quelque part que on est tous pareils en réalité. Donc quand je parle d'une chose personnelle, il m'arrive souvent de traiter un sujet sur scène, j'amorce le sujet, je balance la vanne et j'entends les réactions du public qui disent « Ah ouais, c'est vrai, ah j'ai déjà vu ». Et je me dis « Bon, en fait, ce que j'ai juste souligné, les gens le voient au quotidien ». Donc quelque part, nos vies, elles sont plus ou moins les mêmes, hein. Peu importe nos milieux, peu importe le travail qu'on peut faire dans la vie, quelque part, on a tous la même vie. Donc c'est ce qui me permet de dire que c'est de l'humour populaire dans le sens où on est tous concernés, où on a tous déjà vu la chose que je vais traiter.
Ouais, effectivement, de l'humour populaire, c'est ce qui anime Maé, et on va continuer à parler de Maé, de sa carrière, de son univers. Dans quelques instants, on va de nouveau souffler en musique, et je vous propose cette fois-ci un groupe qui sera en concert la semaine prochaine à Lille. C'est archi complet, mais puisque j'ai la chance d'y être, je vous raconterai comment c'était. C'est le groupe Deluxe, ça s'appelle Get Down, extrait de l'album Boys and Girls sur Radio Plus.
Down.
Le groupe Deluxe à l'instant sur Radio Plus dans votre émission Humour Plus avec leur titre Get Down. Ils seront en concert le 7 novembre à Lille et c'est archi complet et on aura évidemment l'occasion de vous raconter un petit peu parce que nous, nous y serons et on racontera évidemment aux absents. Maë est toujours notre invité dans cette émission, lui qui a un agenda super chargé. On le remercie encore une fois de s'être libéré pour pouvoir permettre de réaliser cette émission. Alors Maë, tiens, là, on vient de parler d'un concert là qui est archi complet et d'un groupe qu'on aurait recommandé si le concert n'était pas complet. En humour, c'est pareil. Il y a aussi des gens qui nous écoutent aussi et qui aiment bien découvrir de nouvelles choses. Alors qui pourrais-tu, toi, nous recommander qui tu as vu récemment et qui t'a marqué, que t'as envie d'encourager, que t'as envie d'inciter le public à aller voir dans, à part toi, bien sûr.
Dans les humoristes connus
Du moment là que t'as envie d'encourager, alors connus ou pas connus, mais les humoristes qu'il faut aller voir là prochainement, selon toi.
Alors en ce moment, il y a un duo. Aziz et Omar, je sais pas si vous en avez entendu parler sur la métropole.
Tu viens de m'en parler hors antenne, mais non, j'ai pas le plaisir de les connaître. Ouais.
Franchement, ils proposent quelque chose de très original, de très percutant, et franchement, je vous invite à les découvrir. Mais là, franchement, si je devais citer des noms, je devrais sortir une liste. Elle serait très très longue parce que là, honnêtement, les humoristes lillois, franchement, c'est pas pour dire, mais il y a un bon petit niveau qui est dans notre région. On va pas se mentir. Ça passe de Var au Baz, je sais pas si vous connaissez.
Ouais, on l'a recommandé plus d'une fois, ouais, youtubeur également.
Exactement, Var au Baz, très bon humoriste. On a Mike Nulty, je sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. Mike, on a Tony, on a Youssef le Daron qui joue son spectacle à la boîte à rire, qui est très.
Il fait partie d'une troupe d'impro aussi, hein.
Qui fait partie de la troupe d'impro des Zinc. Vraiment très très intéressant son spectacle. On a Yacine Kassi, on a Ilyes Djadel, on a Karl Descamps, Julien Bing, Thomas Desseur, Jojo Bernard. Tous les humoristes que je viens de vous citer, c'est des humoristes lillois. On a même des femmes qui sont en train d'émerger là, qui sont vraiment très très fortes. On a Steph Machard, Delphine Van, qui d'autre. On a Bouchra également qui est en train d'émerger. Franchement, à Lille, il y a un très 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 bon vivier d'humoristes, très bon.
Et ça, ça a toujours été, hein, parce que cette année, en 2020, il y a une belle salle qui va fêter ses 10 ans, qui s'appelle le Spotlight.
C'est ça.
Qui, pour l'occasion, rassemble un petit peu les humoristes qu'elle a vu éclore.
C'est ça.
Dès leur début, donc on va retrouver ceux qui désormais ont une vraie carrière, hein, Jérémy Crédville, les jumeaux Steven et Christopher, et puis plein plein d'autres comme ça. Vous allez voir la liste. Ils vont tous jouer sur la scène du théâtre Sébastopol le 11 février, si je dis pas de bêtises en termes de date. Ce très bon niveau, il s'est perpétué à Lille. On aurait pu croire que la multiplication des salles aurait fait que ça se disperse un petit peu, et pourtant non. Le niveau, il continue d'être très bon, et y a un avenir pour la scène lilloise aussi.
Ben, en fait, je pense que c'est plutôt l'inverse. La multiplication des salles, elle a fait que on peut plus jouer, donc plus s'exercer, donc plus se tromper et recommencer. Donc c'est positif pour la scène lilloise. De manière globale.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, aussi, mais c'est peut-être plus difficile d'en sortir aussi quand on arrive, alors qu'il y a déjà justement plein de monde installé dans plein de salles à la fois. C'est peut-être plus difficile de s'en sortir, non?
Franchement, il y a une expression qui dit le soleil se lève pour tout le monde, et il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être aimer tel humoriste, mais pas l'autre humoriste. Donc, je pense qu'il y a tellement de public et que chaque humoriste a son public. Faut pas, en fait, ce qu'il faut faire en tant qu'humoriste, c'est ne pas regarder forcément ce que les autres font dans un premier temps, travailler sur son projet, développer son projet, et par la suite, voilà, voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. Mais le fait qu'il y ait une multitude d'humoristes et une multitude de salles, je pense que c'est que positif, parce qu'on est en train d'ancrer dans la mentalité des gens. Le stand-up est en train d'arriver en Lille et de manière massive, donc c'est super cool.
Tu suis encore ce qui se fait dans la scène humour du côté de Valenciennes?
En fait, je fais partie des gens. Il y a des plateaux à Valenciennes que j'ai créés.
Ouais.
Donc là, on reprend.
Ça existe encore, ça?
Bien sûr. Bien sûr, on a fait une très belle saison l'année dernière avec la scène Comedy Club. C'était tous les vendredis. On a accueilli 110 personnes tous les vendredis. Il y avait une réelle demande sur la région valenciennoise parce qu'il n'y avait pas ce genre d'événement. Et ça a très bien fonctionné. Et on reprend le premier mercredi de novembre.
Donc un rendez-vous là aussi à suivre. Bah c'est tout bientôt là, c'est dans
même pas une semaine. Ouais,
ouais, c'est dans 4 jours là pour être
plus précis.
Ouais. Alors je pose la question parce que t'es monté à Lille justement pour évoluer dans ta carrière d'humoriste, mais j'imagine que t'es pas forcément le seul Valenciennois à avoir eu envie de se lancer dans l'humour et qui va peut-être se lancer la prochainement. Donc est-ce que t'as des échos d'une scène qui est en train de se développer à Valenciennes en dehors de ce que tu crées avec ton comedy club?
À Valenciennes, de suite à ce qu'on avait développé cette année la scène comedy club, il y a un autre plateau qui s'est créé. Ça s'appelle Beers Comedy. Et franchement, c'est cool. C'est bien qu'il y ait des initiatives qui soient prises dans la région. Et les gens sont très demandeurs. Il manquait ce genre d'événement dans la région valenciennoise. Et ça a tellement bien fonctionné que tous les jours, tous les jours de plateau, c'était vraiment archi, archi, archi complet. Donc il y avait vraiment une demande de ce genre d'événement.
Maé est notre invité dans Humour Plus. Maé que vous retrouvez chaque premier samedi du mois au Spotlight dans le cadre de son spectacle Maé s'installe. Est-ce que, je vais peut-être te prendre un petit peu au dépourvu, tu peux nous faire l'agenda des dates que tu connais? Allez, on va pas être trop gourmand jusqu'en décembre, puisqu'il nous reste un mois là. Je sais qu'il y a pas mal de rendez-vous là qui arrivent aussi.
Alors,
si je te laisse 2 minutes, hein, le temps de chercher ton agenda. Moi je meuble, je sors les tiroirs.
Il y a aucun souci. J'ai l'emploi du temps sous les yeux. Déjà, donc dès ce soir, on est vraiment overbooké. Donc sur la première partie d'Ametsila et mon spectacle au Spotlight. Demain soir, on est sur des plateaux.
Il est en train de chercher ses dates et on le comprend bien parce qu'il y en a beaucoup.
Jeudi 7 novembre, je serai au Splendide de Lille. Je ferai la première partie de Maxime Gasteuil au Splendide. 600 personnes, donc c'est vraiment cool. Vendredi 8, je serai à Besançon. Vendredi 9, à Lambrelet-Doué, je joue mon spectacle. Samedi 16, à Mormant. Le jeudi 21, à Ornu. Le 23 novembre, à Laigneville. 27, 28, 29 à Marseille, au Quai du Rire. Le 7 décembre à Lille. Le 13 décembre à Livron. Le 14 décembre à Cannes. Le 12 décembre à Lille. Donc, il y a plein de dates qui vont...
On fait justement pour retrouver toutes les dates? Où est-ce qu'on peut te suivre?
En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais publier sur mes réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, sur ma page Facebook, Mahe Officiel. Je vais mettre un...
M-A-H-E, hein, pour ceux qui...
Non, mais M-A-H-E.
Il
n'y a pas d'accent, M-A-H-E officiel, et vous avez la page Facebook, et je vais publier toutes les dates de spectacle. Alors je vais pas mettre les dates de plateau, parce que les plateaux c'est tous les jours.
Oui.
Alors là ça va être un peu compliqué, mais je vais mettre toutes les dates de spectacle pour que les gens puissent retrouver l'actualité et pouvoir nous suivre.
Alors quand on est comme toi sur scène comme ça tous les jours à chaque instant, quand on a une journée comme aujourd'hui où tu vas courir un petit peu partout, on a quand même heureusement le temps de se préparer un minimum. Ton rituel quelques minutes avant de monter sur scène, c'est quoi?
Étirement et quelques exercices physiques. J'aime bien si je peux courir 2-3 petits allers-retours avant de monter sur scène, m'essouffler un petit peu pour avoir mon second souffle. C'est-à-dire que quand je vais arriver sur scène, je vais pas être essoufflé de l'effort que je vais faire en montant sur scène. Parce que la scène, ça nécessite de beaucoup d'énergie. On se dépense énormément et le cardio est très important. Alors j'augmente mon rythme cardiaque avant de monter sur scène. Au moins, quand j'arrive sur scène, je suis déjà à un rythme assez élevé qui va me permettre de pouvoir attraper le public dès les premières minutes.
Alors si vous êtes dans la file d'attente du Spotlight ce soir vers 21h25, écartez-vous, laissez-le passer la porte, il risque de courir, sinon vous allez vous faire percuter. Pareil, hein, si au retour vers 21h28 vous voyez un mec qui passe à côté de vous qui pue la transpiration, c'est Maé, cherchez pas, c'est Maé, il a été faire son petit sport et il vous promet un super spectacle en tout cas qui s'appelle Maé s'installe. C'est à retrouver chaque premier samedi du mois au Spotlight de Lille et partout en France aussi. Vous avez entendu quelques dates, vous retrouvez donc les dates sur sa page Facebook. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale. On va de nouveau souffler avec un classique pour ceux qui connaissent. C'est Jamiroquai avec Space Cowboy sur Radio Plus. With a sunshine smile upon my face, my friend. Quay avec Space Cowboy, un classique parmi les classiques qu'on vous propose dans Humour Plus pour tranquillement terminer cette émission, parce qu'on est déjà dans la dernière partie de cette émission. Il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. On est toujours en compagnie de Maé pour parler de son spectacle Maé s'installe. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est que Maé, il a quand même une bonne connaissance du milieu humoristique nordiste. C'est vrai qu'il rencontre beaucoup de gens, il nous le dit depuis le début de cette émission, et il va pouvoir nous parler justement de notre prochain invité le 16 novembre, qui est Jalil. C'est l'humoriste que l'on va recevoir. Et Jalil, tu le connais bien, Maé?
Bien sûr, ouais. On s'est rencontré dans le cadre de la scène valenciennoise, la scène Comedy Club. Et c'est un très bon humoriste, vraiment super cool, super sympa, très dynamique, vraiment très beau potentiel en tout cas, vraiment pour ce qu'il fait sur scène. C'est super cool, c'est agréable à voir. Et ben, vous aurez l'opportunité de découvrir son portrait en écoutant l'émission de radio.
Voilà, et c'est à retrouver le 16 novembre en direct de 16h à 18h. Alors, ce spectacle Maé s'installe, vous allez aller le voir ce soir à Lille à 21h30 ou chaque premier samedi du mois au Spotlight de Lille, et même ailleurs peut-être en première partie où Maé va se produire. Vous allez découvrir Maé en première partie, d'autres humoristes que vous allez aussi applaudir. Mais en tout cas, soyez curieux, vraiment, allez encourager cette scène locale qui ne demande qu'à grandir. Et pour grandir, justement, elle a besoin des retours du public. Il n'y a que les échanges qui permettent aussi à un humoriste, à un artiste, quel qu'il soit, de grandir et d'évoluer. Et on parle de ces retours, Maé, parce que justement, j'imagine que c'est ce qui t'aide aussi à faire évoluer le spectacle. C'est quoi, en fait, finalement, faire évoluer un spectacle? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On a des humoristes qui donnent l'impression, en fait, de parfois proposer 4-5 spectacles différents, mais en fait c'est qu'une réécriture légère du précédent. Ouais. Alors c'est pas une critique en soi, mais qu'est-ce qu'on considère faire évoluer un spectacle pour ceux qui connaissent pas?
Alors faire évoluer un spectacle, on peut y avoir une première version qui va être la première version, mais avec le temps et avec l'expérience et les scènes qui vont s'enchaîner et le spectacle qui va évoluer, il va y avoir une ça va s'appeler la version plus. Mmh. C'est-à-dire que un sketch qui durait 5 minutes, il se peut que par la suite, il dure plus que 3 minutes, mais qu'il soit beaucoup plus efficace. Uh-huh. Ou à l'inverse, un spectacle qui durait 3 minutes, on peut le développer et arriver à 7, 8 minutes, voire 10 minutes.
Parce que c'est pas toujours du rajout, en fait.
Non, c'est juste du développer ou étirer une idée. En fait, on a un angle de vue et on peut juste faire une vanne, faire rire les gens, ou alors vraiment s'installer et développer sur le thème en question.
Ouais, donc c'est essentiel aussi, j'imagine, pour l'humorisme. Alors, toi, quand tu dis que tu fais évoluer ton spectacle, par exemple, est-ce que c'est des rajouts que tu vas faire au fur et à mesure, des rajouts ou des réductions, hein, comme tu viens de l'expliquer, que tu vas faire au fur et à mesure, à chaque date, ou est-ce que tu vas les garder de côté dans le but de travailler une V2?
Les deux. En fait, je vais écrire des choses que je vais ajouter au fur et à mesure, et je vais en retirer d'autres pour les développer et pour les mettre plus dans un autre spectacle, parce que leur place, elle n'est pas justifiée dans le spectacle actuel. Donc, c'est un travail qui nécessite une observation. C'est important, en fait, de faire une captation des spectacles.
Ouais.
Et de les visionner par la suite pour voir un peu ce que ça donne et de voir où sont les points forts, où sont les points faibles, les choses à améliorer, les transitions, garder le rythme pendant le spectacle, la fluidité, garder le public pendant une heure. Alors moi, j'ai...
T'es à ta version combien, là, du coup?
En fait, c'est simple. À chaque spectacle, c'est une nouvelle version. Parce que, par exemple, hier, je me suis posé l'après-midi et je visualisais la version du dernier spectacle.
Uh-huh.
Et c'était le 5 octobre.
Ouais, donc il y a un mois de ça, en fait.
Hein. Voilà. Non, je l'avais joué ailleurs.
Ouais.
Mais je me base toujours sur les captations du spotlight.
D'accord.
Donc, en gros, j'ai remarqué qu'il y a un moment du spectacle où il y avait une petite baisse de régime, très légère, et j'ai remarqué que je pouvais supprimer des choses qui étaient pas très intéressantes ou moins importantes ou moins percutantes. Et le fait de les retirer, je vais gagner en efficacité. Et j'ai cette idée, en fait, de me dire que je préfère faire une heure de spectacle bien construite, bien rodée, bien ficelée, et que le spectateur passe un très bon moment et qu'il ne voit pas le temps passer, plutôt que de faire 1h20 avec 20 minutes qui sont un peu...
qui servent à rien, on va dire ça comme ça.
Exactement.
Alors, ta qualité, ton point fort, c'est cette capacité à toujours t'en mettre en question, c'est ta capacité à improviser aussi, à toujours travailler. Si je te demande quel est ton point faible ?
Mon point faible, je suis pas assez... comment dire ? Parce que pour vraiment définir mon point faible, hein, je peux avoir une idée, elle va être bonne, je vais la faire sur scène et je vais attendre beaucoup de temps avant de l'aboutir de manière globale. C'est-à-dire que j'ai une bonne idée, je vais la traîner sur scène, de plateau en plateau, je vais la travailler tranquillement. Et alors que si j'avais fait le travail en amont, en développant bien le truc dès le départ, je gagnerais du temps.
Tu laisses un peu trop traîner, en fait, exact, c'est ce que t'es en train de nous dire.
Voilà.
Tu parles de captation qui aide aussi à voir les défauts, hein, du coup, puisque c'est aussi l'objectif quand on travaille. Est-ce que le déplacement sur scène, c'est quelque chose qui était naturel pour toi? D'apprendre à se parce que on croit que le stand-upper, il est juste devant son micro, ou qu'à l'inverse, il fait juste que traverser d'un bout à l'autre de la scène, et c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein.
Bien sûr. Mais en fait, je me considère pas comme un stand-upper, en fait. Parce que pour moi...
Ma remarque était générale, hein, après. Hein.
Ouais. Non, bien sûr. Mais je trouve qu'un stand-upper, pour moi, c'est la version qu'on peut avoir d'un stand-upper américain. C'est une personne devant un micro et pas trop, un peu statique, et qui balance un texte. Mais pour être un stand-upper, il faut avoir un texte très, très, très fort. Alors, je vais vous donner un exemple. Blanche Gardin, qui est une stand-upper, elle est devant son micro, avec très peu de gestes, avec très peu de déplacements.
De mouvements, ouais.
Voilà. Mais son texte est ficelé. Son texte est millimétré et très percutant. Donc, elle peut se permettre ce genre de choses. Alors que moi, je vais interpréter des personnages. Il va y avoir du jeu, il va y avoir du déplacement, il va y avoir des mimiques, il va y avoir des ruptures, il va y avoir des accélérations, des ralentissements, des variations. Donc, en fait, je suis un sketch-upper, on va dire.
Sketch-upper, j'aime beaucoup.
Exactement. Je fais du sketch et j'amène mes sketchs par le stand-up. Parce que...
Et du personnage aussi.
Et du personnage. Voilà. En fait, ça me tient à cœur de mettre du personnage, parce que on dit un peu que c'est l'ancienne école, mais ça reste quand même les fondamentaux. Moi, j'aime beaucoup Les Inconnus. Et j'aime beaucoup Smaïn. J'aime beaucoup ce genre de référence. Pascal Légitimus, c'était waouh. Quand je le voyais dans Les Inconnus, je me disais waouh, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Didier Bourdon, etc. Les Inconnus, de manière générale. Je me suis beaucoup inspiré de ça. J'aime beaucoup ce qu'ils faisaient à l'époque. Dieudonné et Elise Moon, quand ils étaient en duo, c'était magnifique à voir. Donc Cadmerade à l'époque également, quand ils faisaient des parodies, quand ils faisaient des trucs avec des costumes, des perruques et tout, c'est grave intéressant. Et ça s'est perdu avec le temps, pour laisser place au stand-up. Et je pense qu'il faut vivre avec son temps et son époque. Mm-hmm. Mais je pense que le fait de mélanger les deux styles, Ça crée un nouveau style, tout simplement, et c'est très enrichissant.
Maé est un garçon, en tout cas, plein d'idées, qui a beaucoup de références et qui surtout travaille pour vous faire rire. Et le meilleur moyen de vous en rendre compte, c'est en tout cas d'aller l'encourager sur scène ce soir au Spotlight à 21h30, ou alors tous les premiers samedis du mois au Spotlight, toujours, et puis partout en France. Vous retrouvez toutes les dates sur ses réseaux sociaux. On arrive déjà à la fin de l'émission. Alors Maé, merci d'avoir été avec nous. On va le redire, hein, t'as un agenda hyper chargé, ça n'a pas été facile de te libérer, qu'on est vraiment content de t'avoir heures.
Ouais.
Et la porte t'est bien sûr ouverte, parce que nous on va suivre ce garçon, parce qu'on croit en lui, parce qu'on croit en sa manière de voir les choses, en sa manière de penser, et on sera ravis de le voir décoller comme d'autres ont décollé avant lui. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas, mais vous... puisque c'est vous qui nous écoutez, qui êtes les premiers publics et qui êtes les premiers aussi à remplir les salles de spectacle, ben soyez curieux, allez encourager des garçons comme Maé. Merci à toi encore une fois d'être venu.
Merci à toi, Julien, merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve donc, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours avec Djalil. Ce sera notre invité pour la prochaine émission d'Humour Plus, le 16 novembre prochain, 16h, 18h. Et mardi et samedi prochain, vous retrouverez des rediffusions de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, restez heureux. Moi, je vous dis ciao. Bye bye.